la différence.
Il est 14h04, je vous souhaite une très bonne après-midi. Restez avec nous, c'est l'heure de retrouver Mathieu Vidard pour La Tête au Carré. Bonjour Mathieu.
Bonjour Angélique, merci, à tout à l'heure.
L'idée que c'est de faire intervenir les gens qui sont, disons, à la pointe de la recherche.
Le sujet est lancé.
Alors la question est...
La tête.
Je voudrais savoir s'il y a des dangers à avoir une double vie.
Qu'est-ce que vous entendez par diversité humaine?
Oh, y a.
La tête au carré.
Avec l'université de tous les savoirs.
Voilà, identifié, continuez.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette Tête au Carré réalisée par Violaine Ballet, émission spéciale aujourd'hui puisque je vous propose de partir dans quelques minutes dans les sous-sols du musée du Louvre à la découverte du C2RMF, le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France. J'ai retrouvé sur place la semaine dernière une classe d'élèves de première aile du lycée Sophie Barra de Châtenay-Malabry en région parisienne en compagnie de l'Université Tous les Savoirs. Nous avons donc découvert ce lieu hors du temps et interrogé les scientifiques qui travaillent à la restauration des collections des musées de France. Le centre de recherche et de restauration dispose en effet d'une panoplie de techniques qui sont utilisées pour traiter les différentes œuvres afin de permettre leur description, leur analyse et leur datation. Nous serons donc guidés dans les sous-sols du centre par le conservateur Bruno Motin qui nous fera découvrir la description morphologique d'une peinture. Philippe Walter, directeur de recherche au CNRS, lui nous entraînera dans la pièce qui abrite Aglaé, l'accélérateur de particules du Louvre. Et Antoine Zinck, spécialisé en méthodes de datation basées sur la thermoluminescence, nous expliquera comment il travaille sur les céramiques. C'est Lucie Sarfati qui a préparé cette visite au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, avec l'aide d'Irène Ménem et Chantal Le Montagnier. Visite au cœur de la matière des œuvres dans quelques instants.
Alors,
revue de presse.
Tu peux envoyer la revue de presse
dans la tête au carré.
Pourra-t-on bientôt guérir la trisomie? Gilbert Charles dans L'Express rapporte la découverte presque miraculeuse de biologistes américains ayant réussi à réparer sur des souris les retards mentaux causés par ce syndrome qui se caractérise par une copie supplémentaire du chromosome 21 dans le patrimoine génétique. Des études menées depuis plusieurs années attribuaient ces retards mentaux à un mauvais fonctionnement de l'hippocampe, une zone du cerveau essentielle à la mémorisation, sans qu'on sache exactement pourquoi. Or, les chercheurs américains ont constaté chez les souris et les humains atteints de trisomie un taux anormalement bas de norépinéphrine, une hormone qui agit justement sur l'hippocampe. Ils ont ainsi eu l'idée de stimuler la production de cette hormone chez les souris cobayes grâce à une combinaison de médicaments déjà disponibles dans le commerce pour le traitement de la dépression et du déficit d'attention. Et le résultat a dépassé leurs espérances. Les rongeurs atteints de trisomie ont en effet retrouvé des capacités intellectuelles proches de la normale. Si ce type de thérapie offre des pistes prometteuses, plusieurs années seront nécessaires, indiquent les chercheurs, pour s'assurer de son innocuité. Les résultats de cette étude sont parus dans le numéro de Science du 18 novembre. On vient également tout juste de l'apprendre dans un communiqué de l'INSERM. La recherche sur les cellules souches avance à grands pas. En voici une nouvelle illustration avec le travail mené par l'Institut ISTEM, publié dans la revue The Lancet, datée du 21 novembre 2009. L'équipe d'ISTEM, dirigée par Marc Péchanski, vient de réussir le pari de recréer l'ensemble d'un épiderme à partir de cellules souches embryonnaires humaines. L'objectif est de pouvoir proposer un jour cette ressource illimitée de cellules comme alternative thérapeutique, notamment aux grands brûlés et aux patients atteints de maladies génétiques affectant la peau. Des travaux financés notamment grâce aux dons du Téléthon. Un titre optimiste en couverture du Courrier international cette semaine. Pourquoi la planète sera peut-être sauvée? Cela fait des années qu'est attendu le sommet sur le changement climatique qui se tiendra à Copenhague du 7 au 18 décembre. Et pourtant, il n'y aura vraisemblablement pas de protocole contraignant signé au Danemark. Faut-il conclure à l'échec pour autant? Non, écrivent les journalistes du Courrier international, car ils notent ces dernières années une évolution des mentalités concernant la lutte contre le phénomène. Les pays en voie de développement ont pris conscience qu'il ne pourront pas se dispenser du débat. Et les pays riches, de leur côté, savent qu'ils devront se tourner vers une croissance plus propre. Bref, il y aurait bien quelques raisons d'être optimiste. Pour l'écrivain américain Bill McKibben, l'avenir de l'humanité dépend du sommet de décembre prochain. Selon lui, il s'agit de la réunion diplomatique la plus importante de l'histoire du monde, plus importante même que Yalta. Mais dans l'article d'un journal financier australien, le journaliste John Miller montre que ce point de vue est contre-productif. D'après lui, les grands pays pollueurs devraient plutôt décider d'agir sérieusement à leur échelle, car le problème mondial, explique-t-il, du changement climatique exige des solutions nationales, ainsi qu'une action coordonnée des pays clés qui sont à l'origine du remède et capables d'y trouver justement des solutions. Si les États sont prêts à agir à leur échelle, il y aura donc lieu d'être optimiste malgré l'issue probablement décevante du sommet de Copenhague, c'est à lire dans Courrier International. En bref, dans les pages de Libération, Julia Tisseur nous parle d'une nouvelle tendance écolo, le sexe vert. Pour que le plaisir soit durable, eh bien c'est simple, il suffit d'utiliser des préservatifs bio. La journaliste raconte que RFSU, une association suédoise pour l'éducation sexuelle, s'est lancée il y a quelques années dans la production de préservatifs dits naturels. Comme les condoms classiques, ils sont en pur latex végétal, mais contrairement à leurs homologues traditionnels dont les traitements sont à base de produits chimiques, ces préservatifs suédois ne contiendraient que des substances ajoutées naturelles. Et ça n'est pas tout, il y a aussi les capotes éthiques issues du commerce équitable, note Libération. Grâce à ces préservatifs commercialisés par la marque britannique French Letter, faire l'amour profiterait à d'aimables petits producteurs de caoutchouc en Asie du Sud. Mais pour le moment, aucune entreprise française n'a investi le créneau bio du préservatif. Le directeur marketing de Manix, Jean-Marc Bloch, explique d'ailleurs que le préservatif bio ne pourrait pas exister en tant que tel en France, considéré comme un dispositif médical. Il ne peut pas être certifié bio. Et puis enfin, Le Parisien. Dans Le Parisien, Charles Saint-Sauveur fait le point sur les nouveautés annoncées par le ministre de l'Éducation, Luc Chatel. Et à la rentrée, les maths disparaîtraient purement et simplement des classes de première littéraire. En section scientifique, en revanche, les matières scientifiques seront archi-dominantes. Afin qu'ils puissent mieux se consacrer aux maths et à la physique en terminale, c'est en fin de première que les élèves passeront l'épreuve d'histoire-géo, comptant pour le bac.
Bonjour.
Je vous présente Gilles, qui est le technicien. Donc c'est lui qui va enregistrer tout ce que vous direz et qui sera retenu contre vous. Est-ce que ça enregistre déjà, Gilles, ou pas? Voilà. Alors, vous êtes de quel lycée?
Sophie Barra.
Sophie Barra à Châtenay-Malabry.
Donc toi, tu t'appelles?
Je m'appelle Marine Fouillac.
Tu as quel âge?
15 ans. Moi, je m'appelle Santana et j'ai 16 ans.
Justine, 16 ans aussi.
Camille, 15 ans.
Marion, 18 ans.
Brice, 17 ans.
Juliette, 15 ans.
Benjamin, 16 ans.
Aliénor, 16 ans aussi.
Les professeurs, on peut vous présenter aussi. Bonjour.
Bonjour, Catherine Ziegler, professeure d'histoire-géographie.
Et Sophie Van Rockeghem, professeure de lettres et art dramatique.
Vous êtes prêts?
Mathieu Vidard.
Oui. Allez, c'est parti.
Sur France Inter.
Comment vous êtes venu? En voiture, c'est ça?
Oui. Everybody has a price. Everybody has a price. But sometimes the price doesn't always mean money, money, money. As the picture's playing, no dedication or conviction in what I'm saying, weight laying heavy on my soul. Invisible, manage to keep it moving, but don't know who's in control. Life used to be so beautiful, could appreciate how the sun illuminates the smallest thing and motivates the birds to sing at the crack of dawn. At the crack of dawn. Spread their wings and take on a new flight before the night falls, calls them back to sleep. So they retreat under the sheet of indigo that glows from the harvest moon. I paint a picture with this tune. Connect with everyone in the room who wears a smile over their gloom, trying to sweep it to the corner with a broom, and yet the melancholy looms, secretly anticipating its finale soon.
Shower.
We're supposed to be so strong. Instead of fragile creatures who admit their weakness, reaching out for help when times are bleakest, we hold it in and pretend it's opposite of what we think it is. Instincts instead for a reason. To avoid is treason. Involution's own means of prevention, keeping you from tasting the poison. It's natural selection, yet intelligence is testing boundaries. Why am I chasing happy when I have companionship, success, and money? All the things I thought would fill the empty, but that would run its course so deep inside of me. I silently scream in agony while my friends and family watch on happily. They can't see the clouds above me, overcast, black, and sunny. I laugh it off like it's funny. Who wants to be the lone wolf feeling crummy? Forget the front, cause actually you and me may not feel so differently.
Tell me who is running this game.
This Strain, extrait du dernier album de Wax Taylor sur France Inter.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Donc d'abord, je voudrais passer un petit bonjour à ma classe de terminale.
Oh, la tête au carré.
Avec l'université de tous les savoirs.
C'est sur France Inter.
Les élèves ont travaillé, réfléchi, et je pense qu'ils ont beaucoup, beaucoup de questions.
Bonjour, exactement, j'ai une question.
Où est l'entrée? Centre de recherche et de restauration des musées. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on a rendez-vous avec Sophie Lefebvre.
Oui, alors, il faut que vous vous présentiez à l'accueil, là, d'accord. Et puis vous demandez Sophie Lefebvre.
D'accord. Merci beaucoup. On a une porte blindée.
Voilà, vous êtes au laboratoire du Centre de recherche et de restauration des musées de France. Donc, on est sur 5000 mètres carrés de construction. Et vous allez voir ici la partie laboratoire, c'est-à-dire 1500 mètres carrés pour la prise de vue, où on travaille sur les œuvres. Donc, c'est photographie, ultraviolet, infrarouge, rayon X. Et puis après, on passera aux méthodes d'analyse et on va jusqu'à un accélérateur de particules qui s'appelle AGLAE.
Et le centre existe depuis les réaménagements du Louvre ?
Le laboratoire, à l'origine, était dans le toit du pavillon de Flore que vous voyez là-bas. Et quand il y a eu le projet de réaménagement du Louvre et qu'on a creusé des parkings et des fondations, il a été décidé d'aménager ce qui était ça. C'était une coque de parking sans affectation. Et donc, on est passé de 800 mètres carrés des toits du Louvre à 5000 mètres carrés en sous-sol.
Bon, ben on est prêt pour la visite, alors.
Je suis Bruno Mouettin, je suis conservateur et je m'occupe de l'étude des peintures au Centre de recherche et de restauration des musées de France. Alors, l'une des particularités de ce lieu, donc c'est un centre de recherche dédié à l'étude des œuvres des musées, c'est de mélanger les spécialités. Donc il y a beaucoup de conservateurs de musées qui travaillent pour l'étude des œuvres, mais il y a aussi des scientifiques, des chimistes, des physiciens, des informaticiens, des spécialistes de l'étude du bois, des gens qui ne connaissent que le verre pratiquement, des gens qui seront spécialistes du métal. C'est donc un mélange de spécialités. Notre but, c'est d'arriver à trouver un langage commun qui nous permette de comprendre, de nous comprendre nous-mêmes, mutuellement plutôt, et de faire comprendre ce que nous pouvons trouver sur les œuvres, en croisant donc les connaissances. C'est des spécialités.
Donc ce sont toutes ces disciplines scientifiques qui travaillent ensemble ici au service alors, du Louvre ou de nombreux musées en France.
Une grosse partie de notre activité est dédiée au musée du Louvre, bien entendu, puisque nous sommes à proximité de ce musée. Mais nous recevons ici même à Paris des œuvres qui viennent de l'ensemble de la France et des ateliers situés à Versailles, dans les écuries du château, s'occupent de la restauration d'œuvres qui viennent, elles aussi, de toutes les collections publiques françaises. Donc vous avez des œuvres de Rouen, de Lille, de Marseille, qui viennent très régulièrement, à la fois pour leur étude, mais aussi pour leur restauration. Il y a les deux facettes d'activité qui sont développées dans le centre.
Donc on peut dire pratiquement qu'on se trouve dans la clinique des musées ici.
Vous êtes dans la grande clinique des musées de France, et où normalement tout ce qui pose problème dans un musée français doit venir un jour ou l'autre. Oui. Je crois que la demoiselle ici.
Oui. Les collectionneurs, ils vous amènent parfois des tableaux ou...
Alors, les collectionneurs nous demandent souvent d'étudier leurs œuvres. Ce n'est pas dans nos missions statutaires. Nous sommes un organisme d'État. Nous travaillons pour les œuvres appartenant aux collections publiques. Mais c'est vrai que nous avons très souvent des gens qui disent « J'ai un Léonard de Vinci chez moi, j'ai un Rembrandt chez moi. »
C'est ton cas d'ailleurs, hein. Je crois, à la maison. Hein, t'as une très belle œuvre à faire restaurer.
Et notre mission n'est pas de donner ce genre d'avis.
Allez, on y va.
On y voyez, vous êtes donc au dernier niveau, au dernier sous-sol du bâtiment. Vous voyez, donc on est au cœur de cet immense bateau, tout à fait dans la cale. Et au fond, vous avez une porte blindée qui donne sur un immense couloir qui dessert toutes les salles du musée du Louvre par le biais d'ascenseurs, de passages qui permettent donc aux œuvres de venir ici sans être exposées à la pluie et sans être exposées aux visiteurs. C'est donc une circulation qui se fait en toute sécurité.
Oui, parce qu'on est dans un endroit très protégé. Hein. On a vu des portes blindées, effectivement, à peu près partout.
Une grosse sécurité.
Il y a combien d'œuvres ici, dans ces couloirs, à peu près ?
En fait, on a assez peu d'œuvres. On essaye de garder un nombre minimum d'œuvres. Et il y a beaucoup de passages. Les œuvres viennent, restent 15 jours, 3 semaines, puis repartent et sont remplacées par d'autres. C'est donc une collection qui est toujours en mouvement. Et selon le jour où vous viendrez, vous ne verrez jamais les mêmes œuvres. C'est ce qui est curieux. Mais en chiffrage total, il n'y a pas énormément d'œuvres. On essaye de limiter au maximum le nombre d'objets présents en même temps ici. Nous allons passer tout de suite à droite. Alors attention, il y a beaucoup de choses par terre, au sol, des fils, des lampes, etc. Donc attention à votre tête, attention à vos pieds, pour ne rien casser et ne pas vous faire mal.
Mais là, c'est un studio de prise de vue, pratiquement, oui.
Vous êtes donc dans une grande pièce peinte en noir, hein, complètement peinte en noir. Je pense que vous savez pourquoi c'est peint en noir.
Pour absorber la lumière.
Non. C'est presque pour absorber, oui, c'est pour absorber la lumière, mais c'est pour éviter les reflets. C'est-à-dire que si on avait des murs peints en blanc, on aurait des reflets qui viennent de partout et on serait très gêné dans nos prises de vue, ce qui fait que tout est effectivement absorbant afin d'avoir la meilleure image possible des œuvres que nous étudions. Donc nous recevons au C2RMF, au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, toutes sortes d'objets. Il y a des peintures, des sculptures, des objets archéologiques, des verres, des émaux, enfin, tout ce que vous voyez dans les musées, c'est censé venir. Je ne vous parlerai que des peintures, puisque je ne m'occupe que des peintures. Nous sommes une équipe de 6 personnes, et c'est le domaine dans lequel je suis spécialisé. Donc je vous ai présenté une œuvre qui est arrivée il y a une quinzaine de jours, et sur laquelle nous sommes actuellement en train de faire une étude. C'est une œuvre qui appartient au musée du Louvre. Vous pouvez voir un petit peu ce que ça représente. Je vais vous mettre un peu de lumière déjà pour voir un peu mieux. Donc, certains d'entre vous peuvent me dire un petit peu ce qu'ils voient déjà.
On voit un homme qui pose avec un chapeau et...
C'est un homme avec un chapeau sur la tête, effectivement.
Oui, la main proche du cœur.
La main proche du cœur.
Il a quelque chose dans la main, mais je vois pas.
Il a quelque chose dans la main gauche, oui. D'après vous, qu'est-ce que ça peut être ? C'est de quelle couleur ?
Je vois pas.
Marron.
C'est marron.
Un papier, une lettre.
Marron, papier, lettre, non, pas trop.
Une peau.
C'est quelque chose en peau, probablement.
Mettre les lettres, ouais, un parchemin en lettres.
Non, un parchemin, serait plus clair. Là, c'est brun sombre, donc c'est
une
pas...
C'est une bourse, mais je suis pas très sûre. Enfin, une bourse, enfin, le haut.
Ça pourrait être une bourse, mais comme vous le voyez, il y a deux dessins qui ont l'air séparés, là, par rapport à l'autre. C'est des gants. Oui, tiens, c'est gants dans la main gauche. Donc vous voyez un petit peu ce à quoi nous sommes confrontés journellement. Nous avons des œuvres qui ne sont pas toujours en bel état.
Qu'est-ce qui lui est arrivé justement ? Parce qu'on voit hein, des marques sur ce tableau.
Alors c'est un tableau qui est resté longtemps en réserve, qui a été stocké peut-être un petit peu maladroitement, qui a eu des petits frottements, mais très en surface. Hein. Heureusement, ils vont pouvoir être enlevés facilement. C'est un tableau qui est peint sur quoi ?
Pas sur la toile.
Sur la toile ?
Bah non.
Mettez-vous de côté.
Oui, c'est du bois. Pas, là, regardez. Le support.
Sur du bois.
Ouais. Quand on parle de peinture, on pense toujours à des peintures sur toile. Et en fait, les peintures anciennes, très souvent, c'est peint sur bois.
En moyenne, une œuvre reste combien de temps chez vous pour être restaurée ?
Alors pour le moment, elle est en phase d'étude. Elle n'est pas encore restaurée. Mais une restauration peut être très courte si le travail est simple et peut être très longue si le travail est compliqué. Globalement, on peut dire qu'il faut un an et demi si on veut faire une chose correctement, sans stress, et pour une œuvre de difficulté moyenne, je dirais.
Alors là, la lumière vient de s'éteindre. Alors c'est intéressant parce qu'on voit vraiment le tableau sous un autre angle.
Et une autre lumière vient de s'allumer. Vous voyez qu'il y a un rayonnement latéral qui vient d'être mis en place. C'est ce qu'on appelle un éclairage rasant. Et on aperçoit des choses apparaître. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez ?
Il y a plein de petites bosses et de sillons.
C'est un peu comme une écorce. Enfin,
c'est un peu comme une écorce, absolument.
On a l'impression que le bois il a pris l'humidité et qu'il a gonflé un petit peu.
On a l'impression que le bois a pris l'humidité, il a gonflé, vous avez complètement raison.
Pour
pour moi, ce serait du papier déchiré. Fin...
Effectivement. Donc, c'est un tableau qui peint sur bois, comme on l'a vu. Hein. Et le bois, que vous le savez, ça réagit en fonction de l'humidité. Ça absorbe l'humidité et ça la renvoie par temps sec. Donc, le bois est un matériau vivant qui absorbe et qui désorbe. Et ce qui s'est passé ici, c'est que le tableau a été stocké dans un lieu dont le climat n'était pas suffisamment stable. Et par voie de conséquence, il s'est un peu rétracté. Et la peinture qui est au-dessus du bois s'est soulevée. C'est-à-dire qu'elle s'est décollée légèrement de la surface en créant toutes les petites crêtes de matière que l'on peut voir ici. Vous voyez ici. Et il y a eu des endroits où la peinture était sur le point de tomber. Et pour éviter de perdre de la matière picturale, on a posé dessus du papier non tissé qui permet de refixer temporairement les écailles de matière pour éviter de les perdre en attendant la restauration qui doit avoir lieu. Et je vais vous montrer encore un autre éclairage.
Il va falloir reculer derrière les ultraviolets.
Reculer derrière ces grandes casseroles.
Tiens, vous êtes tout blanc. Je vois vos dents. C'est comme dans les boîtes de nuit.
Donc là, vous êtes dans une boîte de nuit avec de l'éclairage fluorescent sous ultraviolet. C'est donc un éclairage qui sert pour les boîtes de nuit, mais qui sert aussi pour l'étude des tableaux. Puisque l'éclairage sous ultraviolet a pour propriété de faire fluorescer, de donner une couleur verte aux produits organiques comme les cires, comme les vernis. Or, les tableaux sont vernis et on peut donc constater, en regardant cette œuvre, qu'elle est couverte par un très épais vernis qui a pris une teinte verte sous cet éclairage. Ça veut dire que le vernis a vieilli, il s'est oxydé, il est devenu très jaune en fait. Il apparaît en vert sous cet éclairage, mais en fait il est jaune. Et on voit donc que c'est un tableau qui est couvert par un vernis qui obscurcit la composition peinte hein, et qu'il faudra retirer très prudemment pour retrouver les couleurs qui subsistent au-dessous de ce vernis. On voit aussi de la présence de petites taches noires qui signale des endroits où on a dû faire des petites retouches pour camoufler des altérations.
Mais si on enlève le vernis, la peinture sera plus protégée.
Donc. On va utiliser des solvants qui vont dissoudre le vernis de surface. C'est un vernis constitué d'une résine naturelle qui a été déjà retirée à plusieurs reprises. Lorsqu'on nettoie un tableau, on enlève le vernis et on en remet un neuf. Donc là, on va enlever le vernis et on va refixer les écailles de couche picturale pour sauver bien sûr la matière peinte et pour remettre dans le plan tout ce qui avait tendance à bouger. Une fois qu'on aura fait ça, on va faire des retouches sur les zones où il y a des manques de peinture et puis on va reposer un nouveau vernis par-dessus pour lui redonner son éclat.
Oui, c'est de ça que vous discutez quand vous faites les études, c'est de comment a été fait le tableau et comment le restaurer.
On essaye, notre objectif c'est de mieux comprendre le tableau, savoir comment il a été fait absolument, quels ont été les procédés employés par l'artiste pour créer sa composition. Et on essaye de faire également un constat d'état pour savoir quelles sont les altérations dont il est victime. Donc il y a à la fois le côté connaissance technique de l'œuvre et puis aussi altération et dégradation du tableau.
Comment vous le trouvez ce portrait ?
Il manque de lumière et de couleur, un petit peu, ça attire pas autant l'œil que... Ouais.
Vous aimeriez le voir un peu plus...
Un peu sombre, en fait, mais ça doit être à cause de l'usure, je sais pas.
Essayez de vous en rappeler, parce que quand vous le retrouverez dans 2-3 ans, réaccroché dans les salles du Louvre, je pense qu'il aura pris un autre cachet, puis en plus, il sera à nouveau dans son jus dans les salles.
Est-ce qu'avec ce type de lumière, justement, vous découvrez parfois des choses qui, évidemment, à l'œil nu, sont pas identifiables?
Sous ultraviolet, on découvre des choses, mais c'est pas le plus spectaculaire. Par contre, je vais vous montrer la radiographie du tableau, dans la pièce à côté, où on trouve des choses intéressantes.
D'accord.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter.
Alors là, on a un nouvel appareil.
Donc nous voici ici dans une salle d'examen, la salle d'examen des œuvres d'art. Devant vous, sur le grand négatoscope, on appelle ça un négatoscope, l'immense partie lumineuse donc, qui occupe tout le mur du fond de la pièce, vous avez la radiographie de l'œuvre que nous avons vue ensemble. La voilà. Donc c'est une œuvre qui a été radiographiée par un système de rayonnement qui a été projeté, de rayonnement X, qui a été projeté à travers le tableau. Et ce rayonnement donc, a traversé le tableau et est venu imprimer un film photographique en fait, qui était posé de l'autre côté. Et grâce à ça, on observe certaines choses parce qu'il y a des différences de poids moléculaire des éléments qui ont été traversés. Parfois, le rayonnement a traversé du plomb, par exemple, puisqu'on utilise beaucoup le blanc de plomb. Le
le plomb a arrêté en fait le passage du rayonnement, ce qui fait qu'on a des zones qui apparaissent en blanc. Par exemple, sur la collerette du personnage que vous voyez ici, ça apparaît en blanc parce que le blanc de plomb dont est composée la collerette a bloqué complètement le rayonnement. D'autres fois, le rayonnement est passé très facilement. Alors vous voyez que le dos est couvert d'une peinture brune. Et lorsqu'on a fait la radiographie, la surprise a été de trouver quelque chose qu'on n'attendait pas, que vous voyez ici. Vous pouvez me dire ce que vous voyez là ?
Des
initiales. Lesquelles ?
CR.
CR. Et ici, est-ce que vous distinguez quelque chose ? Là ?
Une couronne.
C'est une couronne. Et ça a été la grande découverte de cette étude, puisque ça ne se voit pas au dos, je vais vous le remontrer. Et ce CR, c'est une marque de collection. C'est un grand collectionneur qui a apposé au dos sa marque offerte pour signifier que l'œuvre lui appartenait. Et ce n'est rien de moins que la collection de Charles Ier, roi d'Angleterre.
Ah voilà, d'où le lien avec l'Angleterre
Le lien avec l'Angleterre. On a été abasourdis de découvrir ça.
Ah, ouais.
C'est une œuvre qui a appartenu au roi d'Angleterre, Charles Ier. Vous savez, celui qui a été guillotiné. Ou comment est-ce qu'il a été mort d'ailleurs, je ne sais plus. Décapité, pardon.
Ah, ça, c'est la prof d'histoire. Merci. Elle a bien fait de venir avec nous alors. Ouais.
Et on a été surpris de voir que cette œuvre venait de cette collection. Ce qui était...
Comment il a fait pour mettre ce poinçon, puisqu'à l'œil nu, on ne peut pas le voir.
Alors, c'est une marque qui a été posée au fer, imprimée dans le bois, donc qui était visible autrefois, mais qui ensuite a été recouvert de peinture brune. Donc voilà un exemple de découverte que l'on peut faire grâce à la radiographie. On voit aussi d'autres choses. Si, par exemple, le peintre avait changé d'avis en cours de peinture, s'il avait modifié un bras ou la position d'une main, on l'aurait vu en radiographie.
Une dernière question, parce qu'il y a comme un poinçon avec un numéro.
Alors,
ici.
Alors ici, vous avez le MR, c'est la marque des musées royaux, c'est la marque française cette fois-ci. Le tableau est arrivé dans les collections françaises en 1815-1810, et il a été donné par un Anglais, un Lord anglais, Lord Somerville. Donc ce Lord a dû l'acheter quelque part. Et c'est d'ailleurs amusant parce que lorsqu'il a donné ce tableau, il a dit qu'il y a un des deux tableaux qui vient de Charles Ier d'Angleterre. Et personne ne l'a cru parce que la marque était invisible. On a pu prouver que c'était réel tout à fait récemment. Et la dernière chose intéressante, c'est l'examen sous-binoculaire, puisque lorsqu'on a une œuvre, bien entendu, on ne se contente pas de la regarder à l'œil nu, mais on s'appuie aussi sur des loupes ou des microscopes. Hein. Et je voulais vous montrer donc un détail de ce tableau. Il faut que je l'allume. Voilà. Allez-y. Simplement, alors, vous n'appuyez pas pour ne pas écraser la peinture, hein, mais vous regardez simplement. Ça va, c'est net ?
Oui, ça va. On peut voir une surface bleutée avec des taches blanches. Ouais.
Vous voyez que le vernis donne l'aspect de couleur verte, mais sous le vernis, c'est bleu, hein, parce que le vernis est jaune. Donc le jaune donne l'impression que c'est du vert, alors que c'est du bleu. Puis en dessous, vous voyez une couche blanche. Vous la voyez ? Dans la profondeur.
Oui. Oui, je la vois.
Qui est ce qu'on appelle la préparation, puisque le peintre n'a pas peint directement sur le panneau de bois. Il a d'abord posé une couche d'encollage, ensuite il a mis une épaisse couche on appelle ça du gesso, c'est-à-dire un mélange de colle et de craie, qu'il a laissé sécher, et enfin, il a commencé sa peinture. Donc on voit bien, sous la binoculaire, les différentes couches qui composent la peinture.
Allez, qui veut regarder ? Allez-y.
Profitez-en, parce que vous n'aurez pas souvent l'occasion de voir ça.
Ah oui, on dirait presque une mosaïque vue comme ça.
C'est joli, hein ?
Oui.
Oh, mais ça fait quoi en fait, ça zoome très fort et
voilà, ça agrandit très fort.
On voit toutes les écailles.
Ah ouais, c'est vraiment la surface est vraiment craquelée.
Moi, je vois pas de bleu, je vois vraiment du vert.
Ouais.
Tout le monde a regardé a priori.
Je
peux
travailler.
Mais vas-y, retourne-y. Ouais.
Parce que j'arrive pas à voir le bleu, je le vois.
Et Bruno Motin, avant de vous quitter, on sait qui est le personnage qui est représenté ?
Il y a une inscription sur la traverse, c'est un personnage italien du XVIe siècle.
Un noble
italien.
Mais ce
n'est pas une personnalité très connue, en fait.
Ouais.
On peut vous demander combien de fois le microscope grossit ?
Là, ce n'est pas énorme. Je vous ai mis à 6 fois. J'ai vraiment mis le minimum pour qu'on voit autrement. Hein. Oui. Mais on peut aller jusqu'à 40. Hein. Sinon, lorsqu'on a des prélèvements, on les étudie aussi au microscope optique jusqu'à, pratiquement un millier de fois. Et on les passe ensuite au microscope électronique à balayage qui peut aller jusqu'à 100 000 fois de grossissement. En fait, c'est trop pour nos peintures, mais c'est couplé à un système de rayonnement X qui vient frapper les grains que l'on vise et ce qui nous donne un spectre correspondant aux éléments excités. Donc ça peut nous permettre d'identifier aussi les éléments chimiques utilisés. Mais là, je suis en train de rentrer dans le domaine suivant qui va vous être présenté par Philippe Walter. Donc c'est vraiment sa partie qui va vous présenter. Ouais. Maintenant.
Merci Bruno Motin, parce que c'est passionnant. Hein. Ah, c'était formidable. Merci beaucoup.
Suite dans un instant de la visite du Centre de recherche et de restauration des musées de France et nous allons faire connaissance avec Aglaé, l'accélérateur Grand Louvre d'analyse élémentaire, une installation unique en son genre.
5h35, comme tous les matins, les yeux froissés. Y'a pas foule dans le RER et dans les sacs, ça sent un peu le mafé. Y'a des Alain, des Rachid, des Mam et des Doudou aux mains gercées. À qui on a toujours dit c'est clair, le monde appartient au premier levé. Mais ça n'a pas de sens, ce peu de reconnaissance pour la France qui se lève tôt. Moi tout patraque, j'ai mon pack d'attaque, même si je claque des dents et des os. J'ai un rendez-vous super important, faut pas que je me rate, faut que je sois costaud. J'ai pris tout ce qu'il faut, parce qu'il faut ce qu'il faut, c'est comme il dit ça. Il dit toujours c'est clair, le monde t'appartient, faut juste le mériter, coco. Mais Dieu, quelle indécence, cette putain de condescendance pour la France qui se lève tôt. Ouais, pour la France qui se lève tôt. J'arrive pile à l'heure, le mec me sort son sourire en toc et me prend de haut. Il dit qu'avant l'heure c'est pas l'heure et qu'après c'est plus l'heure et que c'est vraiment pas de peau. Ça devient flou dans ma tête, je tremble, les somnifères ça rend parano. Y'a comme un Big Bang, le buzz du réveil me sort de mon rêve en sursaut. Devant la France qui se lève tôt, lève tôt, lève tôt. Ouais, la France qui se lève tôt. Ouais, la France qui se lève tôt. Cinq heures trente-cinq, comme tous les matins, les yeux froissés. Y'a pas foule dans le RER et dans les sacs, ça sent un peu le mafé. Y'a des Alain, des Rachid, des Mam et des Doudous aux mains gercées. On nous a toujours dit les premiers levés sont souvent les derniers couchés. L'égalité des chances descend à la prochaine correspondance pour la France qui se lève tôt.
La France qui se lève tôt, Mike Ibrahim, dans la tête au carré, retour au Centre de recherche et de restauration des musées de France à Paris. Et c'est Philippe Walter, directeur de recherche au CNRS, qui nous guide maintenant pour la suite de la visite avec les élèves de première du lycée Sophie Barat de Châtenay-Malabry.
Donc je vous propose de changer un petit peu de domaine. Moi je suis chimiste. Et donc vous emmenez voir notre accélérateur de particules à Aglaé, donc qui est de l'autre côté du laboratoire. Donc on va traverser le puits de jour par lequel vous êtes arrivé tout à l'heure.
Alors on vous suit avec plaisir. C'est étonnant hein, quand même de voir les tableaux comme ça, avec les lumières.
Je pensais qu'il y aurait plein d'artistes. En fait, c'est surtout des scientifiques, quoi. C'est de l'analyse de l'art, mais il n'y a pas de...
C'est des scientifiques qui ont des formations très variées, qui peuvent être des historiens de l'art ou des archéologues, et puis des physiciens, des chimistes, des géologues. Et c'est en mélangeant un peu toutes nos compétences que l'on cherche à comprendre ce que les artistes ont fait, mais pas forcément que les artistes. On travaille aussi sur des technologies, par exemple de l'Antiquité ou de la Préhistoire, pour essayer de découvrir d'autres savoir-faire, cette fois-ci artisanaux, mais pour fabriquer des objets de la vie quotidienne.
Allez, on va pénétrer donc dans cette fameuse pièce où se cache Aglaé.
Donc là, c'est la salle de contrôle. Donc on va passer une chicane ici. En fait, il y a un mètre de béton qui nous sépare de la pièce d'à côté où installer notre machine. Et la chicane est faite pour que les particules, qui vont toujours en ligne droite, n'arrivent pas à passer dans la pièce d'ici. Et donc que les gens aient une sécurité absolument totale à cet endroit. Donc c'est pas radioactif, on crée des réactions qui produisent des rayons X, des rayons gamma. La machine est en route, hein. On va y aller, il n'y a aucun risque. Mais pour les gens qui travaillent en permanence ici,
y séjourner en permanence et subir le peu de radiations qui sont émises peut finir, au bout de quelques années, par arriver à un seuil qui peut commencer à devenir dangereux.
Mais les rayons X, ça n'abîme pas les tableaux ?
Vous avez vu tout à l'heure, ces rayons X, on les utilise pour radiographier les peintures. Donc ça va être le même principe avec la machine que l'on va voir, qui s'appelle Aglaé. C'est qu'on va utiliser cette fois-ci des particules qui ne sont pas des rayons X, mais les noyaux d'atomes, les noyaux de l'hydrogène. Alors c'est le proton, des noyaux de l'hélium. Et on va utiliser ces particules pour bombarder la matière. Et on ne va pas en mettre trop. Si on en met trop, on va détruire la matière.
Ça a quoi comme avantage par rapport aux rayons X de mettre des particules ?
C'est un avantage important. C'est que par ces méthodes-là, on va faire l'analyse de la composition des éléments chimiques présents. Et on va avoir une sensibilité très très grande. Et donc Aglaé, c'était le nom d'une des trois grâces de l'Antiquité grecque, celle qui était liée à la beauté. Puis ça veut dire aussi tout bêtement accélérateur grand louvre d'analyse élémentaire. Et vous allez voir, je crois qu'il faut y aller pour voir la machine d'abord.
Et ça discute beaucoup derrière nous, hein, Philippe Walter. Hein.
C'est mes collègues qui sont en train de travailler sur les objets que j'ai dans la main, d'ailleurs là actuellement, pour vous les montrer. Donc des petits objets en or.
Ah ben ça y est, voilà.
Wow, la vache. C'est ça le Aglaé ?
C'est tout ce truc là. C'est presque une usine.
C'est tout ce truc Aglaé. En fait, c'est une petite machine. Je ne sais pas si vous connaissez d'autres accélérateurs de particules. Il y en a un particulièrement important qui est le CERN, qui est situé à la frontière entre la France et la Suisse et qui fait plus de 20 km de circonférence. Donc nous, c'est une petite machine, elle ne fait que 25 mètres.
Vous pouvez d'ailleurs nous la décrire pour les auditeurs qui n'ont pas la chance de la voir, Philippe Walter.
Donc en fait, c'est essentiellement, vous le voyez ici, une sorte de cuve à lait, une grande citerne. En fait, c'est ça l'accélérateur de particules lui-même. Et d'où partent des excroissances, c'est ce qu'on appelle les lignes de faisceaux. Donc la grande citerne, en fait, c'est l'endroit où on va accélérer les particules en ayant une tension très importante. Donc c'est une tension de plusieurs millions de volts. Et c'est comme ça qu'on donnera de l'énergie à nos particules. Alors, on entend du bruit dans la salle, c'est parce que la machine est sous un vide qui est très poussé. Donc après, on a toute une série d'éléments d'optique de faisceau. C'est-à-dire que c'est comme avec la lumière, comme un microscope. En fait, nous, nos particules, on va les transformer pour avoir un tout petit faisceau au bout. Un petit faisceau qui fait environ 20 micromètres, c'est-à-dire un quart du diamètre d'un cheveu, et qui va nous permettre d'aller sonder la matière au bout. Et comme je vous l'ai dit, en quelques minutes, on va réussir à connaître sa composition. Et donc là, il s'agit de différents petits objets. Je vais en sortir de la boîte là. Qui sont des petits objets... conservé au musée du Quai Branly, vous voyez une sorte de petite épingle avec une tête au bout, qui proviennent de Colombie, qui ont été fabriqués il y a environ 1500 ans.
Et toute cette salle-là, c'est pour analyser ce petit objet qui est...
Donc c'est pour avoir un petit faisceau de 10 micromètres, donc de toute petite taille, à cet endroit-là, et qui va nous permettre de faire des analyses rapides. Tout ça pour ça. Ouais. Mais l'avantage, en fait, c'est qu'on a une qualité d'analyse qui n'existe pas avec les autres instruments, et on en a beaucoup aussi ici au laboratoire. Et c'est pour ça que ce projet a été lancé et est particulièrement important.
Maria, expliquez ce que vous faites.
Donc on analyse ces objets de manière à vérifier la composition chimique. Il y a une première analyse qui a montré que tous les objets étaient faits en or, argent et cuivre. Mais ils ont tous des couleurs différentes. Vous voyez, il y en a des très dorés, des foncés, des cuivrés. Et malgré des couleurs très différentes, l'analyse donne une composition identique. Donc on est en train de vérifier avec une autre technique s'il n'y a pas eu des traitements de surface par cette civilisation, hein, pas un traitement moderne, qui aurait modifié la couleur des objets.
Donc là, on voit que vous posez l'objet vraiment sur l'extrémité de l'appareil. Hein.
Voilà. Donc là, on le pose grossièrement en première action et après, avec l'ordinateur dans la salle de commande, on va poser l'objet exactement sur le point d'analyse.
Enfin, si vous voulez, Aglaé a 20 ans maintenant. On a célébré, on a fait un anniversaire pour ses 20 ans il y a quelques mois. Et à cette occasion-là, on a fait une petite exposition. Et là, vous avez toute une série d'objets qui ont été analysés avec Aglaé. Donc, vous voyez des objets en céramique, des dessins, des sculptures de toutes les époques. Commençons donc par le scribe. Alors, cet objet est venu il y a assez longtemps au laboratoire et le but était de comprendre comment il était fabriqué. Et donc là, on a pu analyser les pigments. Donc, à ces époques-là, les pigments, c'est des oxydes de fer, donc réussir à comprendre quelques petites choses. Mais ce qui est vraiment passionnant dans le cas de ce scribe, quand on passe devant la sculpture, on a l'impression que le regard nous suit.
Il est assez hypnotisant, hein. C'est vrai que...
C'est une œuvre incroyable.
Ouais.
Et donc la question était quels étaient ces matériaux. Et donc de regarder la nature des différents constituants. Donc c'est pas très difficile avec ce type d'approche, ça nous prend quelques minutes, hein. C'est tout. Et donc de voir le contour qui était fait en métal, en fait un cuivre qui était riche en arsenic à cette époque-là, pour faire le bord des yeux. Alors certainement altéré volontairement en vert, puisqu'à cette époque-là, le maquillage était très souvent vert. Et puis ensuite, un cristal de roche a été utilisé pour faire l'œil, et autour, le blanc de l'œil a été fait avec un matériau qui n'est vraiment pas fréquent, qui est un composé de magnésium, qu'on appelle de la magnésite, et qui contient des petites veines rouges naturelles faites par des oxydes de fer. Et quand vous regardez ses yeux de très près, avec un microscope ou une loupe binoculaire comme tout à l'heure, c'est incroyable ce que ça peut ressembler à un véritable œil. Et ensuite, par radiographie, on a regardé même la façon dont les éléments étaient assemblés, et ça ressemble incroyablement à un œil humain. Et donc, par des matériaux naturels, géologiques, ils ont su faire presque un œil humain, et qui est un chef-d'œuvre de l'histoire de l'art.
Complètement noir. Il n'y a aucun relief, aucune autre couleur, elle est noire.
Donc en fait, elle est faite avec un cristal de roche qui est transparent. Et derrière, ils ont fait une petite cupule où ils ont dû mettre une matière noire, alors qu'on n'a pas pu analyser, parce qu'on ne s'est pas traversé tout ce cristal de roche pour aller derrière. Donc on pense que c'est un pigment noir ou une matière organique sombre, et qui ont permis justement de créer cet effet par diffusion de la lumière, exactement comme pour nous finalement. C'est-à-dire que la lumière va rentrer à l'intérieur, se réfléchir sur les facettes, et donc créer cet aspect incroyablement réaliste. Et même si vous regardez un petit peu plus près, vous remarquez une petite dissymétrie également du regard qui rend encore plus à ce réalisme.
J'ai pas très bien compris le système de la machine. C'est un rayon lumineux qui arrive sur l'œuvre. Enfin,
on va aller regarder un poster ici. Donc ici, vous avez un petit schéma de l'atome. Alors, vous savez, l'atome, c'est toujours un noyau avec autour des électrons qui tournent. Et nous, ce qu'on envoie, c'est pas de la lumière. Ce sont des particules, donc des noyaux d'atomes. Et donc, vous avez la particule qui vient et par exemple, qui va arracher un électron de cet atome. Et si ça arrache un électron, ça induira la production d'un rayon X. Et nous, ce qu'on va regarder, c'est les rayons X. Et puis, dans d'autres cas, vous avez la particule qui va rentrer directement dans le noyau de l'atome, donc faire ce qu'on appelle une réaction nucléaire. Et à ce moment-là, le noyau va se désintégrer et émettre d'autres particules, ou bien va changer d'état et émettre des rayons gamma. Et c'est eux aussi que l'on va détecter. Et d'autres particules, parfois, vont faire demi-tour. Et c'est en mélangeant tous ces signaux-là qu'on arrive à déterminer la nature de la matière. Donc, ce n'est pas du tout de la lumière visible, mais c'est vraiment des réactions liées au noyau d'atomes. Et c'est ça qui est très, très spécifique dans ce type d'installation et qui fait que la machine est particulièrement lourde, mais qui fait aussi qu'elle est très efficace et qu'elle permet de faire des analyses très précises. Alors, on peut faire des sondes également avec des rayons X, on peut faire des sondes avec des lasers, avec des électrons. On a d'autres équipements de ce genre-là au laboratoire, mais qui ont cet inconvénient d'être moins précis.
Merci beaucoup, Philippe Welter, pour ces explications. Donc maintenant, on va partir du côté de la datation.
Voilà. Partir de nouveau vers la datation.
Suite et fin dans un instant de la visite dans les sous-sols du Louvre au Centre de recherche et de restauration des musées de France avec l'Université de tous les savoirs. Bon après-midi avec France Inter. Dans la tête au carré, c'est Jean-Louis Aubert. Tout de suite avec les plages.
Dans leur petite tête, paradis, hey, c'est ici.
Les plages avec Jean-Louis Aubert, dernière partie de la découverte du Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France avec l'UTLS et les élèves de première du lycée Sophie Barra de Châtenay-Malabry.
L'élément essentiel du progrès...
Et là, je vais sortir le mot qui fâche.
La recherche en France.
La recherche en France.
Les chercheurs en France.
Regroupez-vous, allez voir par là.
Sur France Inter.
Excusez-moi, je peux faire quelque chose? Je suis un scientifique, monsieur.
La tête au carré.
C'est vous qui faites la transition, Philippe Walter?
Oui, on va retraverser le laboratoire dans l'autre sens.
Oui.
Pour aborder donc ce problème des méthodes de datation, qui est vraiment également très important pour la connaissance et l'expertise des œuvres d'art. Oui. On en a plusieurs ici. On fait de la datation par la méthode du carbone 14. On fait aussi des études sur les cernes du bois, donc des méthodes qu'on appelle la dendrochronologie, qui nous permettent de dater quand est-ce qu'un morceau de bois a été coupé. Et puis également d'autres méthodes qui étudient l'évolution du champ magnétique terrestre. On appelle ça l'archéomagnétisme. Et là, on va aller voir une autre approche. C'est comment essayer de dater la dernière cuisson d'une céramique, et qui est quelque chose aussi d'extrêmement intéressant et important pour la caractérisation et l'authentification des objets.
Bonjour Antoine Zinc.
Bonjour.
Merci de nous accueillir. Donc je vous présente les élèves de Châtenay-Malabry, voilà, qui sont très curieux de savoir ce que vous faites pour avoir des informations sur la datation. Ça, c'est votre partie, vraiment.
Voilà. Donc, au laboratoire, nous avons quatre méthodes de datation. Donc, le carbone 14, la thermoluminescence, l'archéomagnétisme et la dendrochronologie. Il y a différentes méthodes, comment l'évolution dans le temps va se faire. Soit c'est une évolution qui est monotone, qui est continue. Alors ça, c'est typiquement pour nous le carbone 14 ou la thermoluminescence. Donc moi, je m'occupe de la thermoluminescence. Mais ça peut être aussi des événements erratiques, comme pour la dendrochronologie ou l'archéomagnétisme, où là, il faut avoir une courbe de référence. Et donc, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut d'abord établir la courbe de référence et après se situer sur cette courbe de référence. Par contre, dans ma partie où c'est la thermoluminescence, c'est relativement simple, surtout pour ce qu'on étudie, c'est-à-dire les terres cuites d'âge historique, c'est-à-dire qui ont moins de 5000 ans globalement. Pour la thermoluminescence, c'est très bien parce qu'on est dans des conditions où on a un phénomène qui évolue linéairement dans le temps, donc qui évolue continuellement de toujours la même façon. Et en l'occurrence, c'est une accumulation d'énergie dans les minéraux provenant de la radioactivité ambiante. Sachant que quand on chauffe les minéraux, l'énergie qu'ils ont accumulée, l'ensemble de cette énergie va être évacuée du minéral. Et donc, il y a une remise à zéro totale du signal. Donc, on repart de zéro chaque fois que le minéral est chauffé. Donc, ce que nous, on peut dater, ce sont les terres cuites. Alors, je vais essayer de vous en trouver une de terres cuites qui se balade. On va donc chercher, d'une part, à mesurer l'énergie accumulée par cette poterie. Donc ça, eh ben, on va en laboratoire vider l'énergie qu'elle a accumulée depuis sa dernière chauffe, donc sa cuisson. Et cette énergie, comme rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, cette énergie va se transformer en émission lumineuse. Donc on va mesurer le signal lumineux. Donc c'est pour ça qu'on parle de thermoluminescence, parce qu'on chauffe et on recueille la lumière. Donc plus le signal lumineux est intense, plus l'énergie accumulée est importante, plus l'échantillon est vieux. D'autre part, il faut tenir compte donc de la radioactivité absorbée chaque année, donc de la dose annuelle. Donc les alpha et les bêta proviennent de la pièce uniquement. Les gamma, par contre, proviennent de l'environnement. Ce qui, pour nous, qui travaillons sur les objets de musée, nous pose un gros problème parce que cet environnement, on ne le connaît pas. Ça explique qu'en fait, pour les objets de musée, en fait, on a des très fortes incertitudes de plus ou moins 15%. Si on a la chance de trouver un objet enfoui, donc on peut mesurer la radioactivité sur le site lui-même, là, on va descendre à 7% pour un objet. Si on en a plusieurs, bon, en multipliant les mesures, on va pouvoir descendre à 5%, jamais plus.
Quels sont les outils là, que vous utilisez dans votre laboratoire, Antoine Zinc?
Alors, ici, on est dans la salle de préparation. Donc, ce qui est assez particulier, c'est que nous, on a un robot de préparation chimique. On a une préparation qui est relativement simple, parce que vraiment, ce qui nous gêne, c'est la lumière.
Alors, quelles sont les autres étapes ensuite, Antoine Zinc, pour toujours arriver à cette datation, hein?
Donc, ensuite, on va dans l'autre pièce où on a nos appareils de mesure. Et là, c'est un appareil qui va, premièrement, chauffer notre échantillon et récupérer l'intensité lumineuse correspondante. Puis après, on va réirradier l'échantillon avec une source radioactive qui a été calibrée en laboratoire. Donc, en fait, on va le vieillir artificiellement. Et on va remesurer le signal correspondant et on va comparer les deux. Donc là, c'est une simple règle de 3 qui va nous permettre de savoir quelle est l'énergie accumulée.
Et le processus de datation, ça demande en moyenne combien de temps
C'est relativement long parce qu'on a plusieurs choses à mesurer. En plus, quand on va vieillir artificiellement notre échantillon, on l'irradie. Or, quand on irradie, on perturbe toujours le cristal et il est préférable de laisser reposer le cristal après son irradiation. Donc, et en gros, ça veut dire attendre un mois entre l'irradiation et la mesure.
Ah oui.
Donc,
c'est un métier de patience.
Voilà. Une datation, ça nous prend facilement 3 mois pour le faire.
Merci beaucoup, Antoine Zinc, en tout cas, pour ces explications.
Ah,
vous avez une surprise ?
Qui n'était pas prévue. Et on a une roue de char qui est en radiographie à côté. Donc, si ça vous tente...
Une roue de char, oui, bien sûr. Bénure est dans le coin.
Voilà la roue de char. C'est très rare. Je présente Thierry Borel.
Bonjour.
Bonjour. Donc là, on a des roues de char qui sont en cours d'étude. Et on a fait des radiographies pour pouvoir déterminer les endroits de fragilité. Enfin, on voit qu'elles sont très abîmées. Mais aussi permettre de savoir à quels endroits mon collègue métallurgiste va pouvoir prélever pour avoir une matière représentative de ce qu'était la roue à l'origine. Et puis la radiographie nous apprend le procédé de fabrication à la fonte à la cire perdue. Et on remarque des armatures qui sont un petit peu curieuses. Et,
donc elle a quel âge ?
C'est la fin de l'âge du bronze.
Est-ce que vous avez d'autres questions ? Cette roue de char nous laisse sans voix.
Sans voix romaine.
Sans voix romaine, bravo. Ben, merci beaucoup pour vos explications. Et puis on va reprendre le chemin de la sortie, peut-être. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'avoir été immergé dans... C'est étonnant, hein ? Qu'est-ce qui vous a intéressé, alors ?
De voir qu'à travers une peinture ou une roue de char, y a beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup d'éléments qui la constituent.
C'est marrant parce qu'il y a les vieilles œuvres très anciennes du Moyen-Âge ou même on entend des pièces de l'âge de bronze et tout. Et autour de ça, on a des machines un peu futuristes. Tout à l'heure, où il y a des procédés un peu très très modernes. Mais je savais qu'il y avait pour les restaurations ou les études, il y avait des scientifiques derrière. Mais je ne pensais pas qu'il y avait autant de disciplines et de différentes manières qui se complètent chacune dans son coin et qui au final... Enfin, je ne pensais pas que c'était aussi complexe.
Vous voulez répondre, Philippe Walter, là-dessus ? Parce que c'est vrai que c'est surprenant. Hein.
On se complète tous et on essaye vraiment de former ses équipes. Et c'est certainement un des enjeux aujourd'hui en recherche. Et dans tous les domaines, hein, pas que pour l'art, c'est la même chose pour la médecine ou la biologie. Cette interdisciplinarité de mélanger toutes nos approches, toutes nos façons de regarder un même problème qui peuvent permettre de résoudre des problèmes bien plus importants d'ailleurs pour la société que ceux qui concernent la